La radio, en tout cas, j'étais encouragé par ses chants. À l'agneau sur son trône, glorifie ton nom. Donc ça, c'est vraiment des chants qui sont, je ne sais pas de quelle date ils sont, mais c'est des chants qui sont un peu des chants qui nous amènent un peu vers le ciel, hein, parfois. Les hommes qui étaient inspirés, et puis sous l'inspiration de la grâce, comme c'est écrit hein, dans ce recueil, nous l'avons aussi. À toi la gloire aussi, on l'a. Donc merci pour vos belles voix. Ça m'a beaucoup encouragé. Ouais. Alors nous sommes, pour ce qui est des dimanches, dans l'étude de la deuxième lettre. À qui ?
Timothée.
Très bien.
À
Timothée, tout à fait. Oui. Les dimanches, on est en train de faire sur les Timothée. Je vous laisse passer les notes. La première semaine, on avait vu, du moins dans le culte du dimanche, la motivation pour l'évangile. Comment l'apôtre Paul était en train de mettre la flamme, le feu à ranimer, en train de motiver son jeune disciple et puis le pasteur, le jeune pasteur aussi qui était engagé dans l'église d'Éphèse. Et puis après, on avait vu en groupe aussi, si vous vous rappelez peut-être, l'apostolat de Paul. Donc l'apostolat de Paul pour l'évangile spécifiquement, annoncé parmi les païens, et sa compréhension de la grâce de Dieu qu'on avait tiré à partir du premier chapitre de Timothée. Donc là, pour cette troisième étude, je vous propose, j'ai été au courant depuis une semaine sur cette étude. Donc c'était content parce que j'aime beaucoup, du moins je pense les premières études que j'ai commencé à faire pour moi-même personnellement et puis aussi parfois enseigner aussi, c'était à l'âge de 17-18 ans on va dire, quelque chose comme ça. Donc c'était aux jeunes adultes et à chaque fois que j'ai une réunion comme ça de jeunes adultes, de jeunes, et je remercie vraiment le Seigneur parce que c'est l'âge où on prend des grandes décisions. On est considéré à toutes sortes de bifurcations dans la vie. Il y a un carrefour de la vie, on doit prendre des décisions professionnelles, on doit prendre des décisions personnelles, des décisions affectives, et puis par-dessus tout, même des décisions spirituelles pour tout individu. Je crois que c'est l'âge tournant. Donc c'est une des raisons pourquoi on se concentre dans la parole de Dieu dans cet âge même. Et avoir des réunions de groupe d'église comme ça avec autant de jeunes, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et je remercie vraiment pour chacun de vous, pour ces chants et puis pour votre témoignage aussi. Ça m'encourage vraiment. Alors je vous propose pour commencer 4 versets. Alors... je ne me suis pas arrêté à la deuxième lettre de Timothée, j'ai aussi un peu pris quelques versets de la première lettre aussi de Timothée pour voir un peu ce jeune homme plus spécialement. Alors, première lettre de Timothée, chapitre 4, verset 12. Habituellement, vous faites des lectures chacun son tour ou un peu comme dans les études bibliques aussi, vous faites. C'est la première fois que tu viens. Donc
chez les jeunes, oui.
Je commencerai ces lectures. Et puis s'il y a une personne qui peut prendre 1 Timothée 6, 11, quelqu'un peut prendre aussi 2 Timothée 3, 15. Alors 1 Timothée 6, 11 pour Nilsson et 2 Timothée 3, 15 pour Junias par exemple. Et puis moi, je ferai 1 Timothée 4, 12 et 2 Timothée 2, 2. C'est la parole de Dieu. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté.
1 Timothée 6, 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Il cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur.
2 Timothée chapitre 2 verset 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
2 Timothée 3, 15, et ton enfance te connaît les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à Saint-Luc par la foi en Jésus-Christ.
Merci, on va prier le Seigneur avant d'aller plus loin. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et aussi la parole que tu t'adresses à toute personne et même aux jeunes. C'est ça qui est merveilleux dans toute ta communication, dans toutes tes lettres. Et nous t'en remercions et que tu puisses être glorifié comme nous avons chanté. Glorifie ton nom dans nos vies à chacun. Tu as un plan spécifique pour la vie de chacun des jeunes hommes, des jeunes femmes ici. Et je te remercie pour cette occasion que nous avons de pouvoir ouvrir cette parole de vérité, de pouvoir voir les instructions que tu nous donnes. Seigneur, que tu nous donnes toute la concentration, l'écoute et surtout la mise en pratique et que nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ en sortant de ces lieux. C'est au nom précieux de notre Seigneur, Jésus ressuscité, que nous te prions, Père Céleste. Amen. Donc, considérant à ceux qui sont appelés au ministère, bien sûr, Timothée a été appelé hein, dans le contexte. À l'évidence, je trouve que ce verset s'adresse aussi aux enfants, tous ces versets qu'on lit, à ceux qui éduquent les enfants dans la foi aussi, aux adolescents, mais particulièrement aux jeunes adultes aussi. Bien spécifiquement, parce que là, aujourd'hui, il y a des jeunes, je crois que la plupart d'entre vous, vous êtes étudiants. Certains d'entre nous sont un peu travailleurs, mais la plupart, vous êtes étudiants. Donc, dans cet âge, c'est intéressant de lire ces versets parce que l'apôtre Paul, il parle de Timothée depuis son enfance même ici, dans ces passages, comme tu as lu tout à l'heure. Depuis son enfance, comme nous avons étudié précédemment, il était question de sa mère, de sa grand-mère aussi. Donc, même de plus petite enfance. Et là, maintenant, il arrive dans cet âge, je crois que... il doit avoir dans la vingtaine quand il a rencontré la première fois l'apôtre Paul. Hein. Donc dans cette étude, on va avoir un fort encouragement sur toutes les instructions qu'on peut tirer dans notre pratique dans la foi. Donc on va essayer de faire une réflexion et de travail collectif de temps en temps, enfin, comme vous avez l'habitude, hein, d'après ce que j'entends, il y aura des questions aussi. Ça serait toujours bien d'être interactif, je crois, si c'est possible. On va essayer de rester dans le timing, surtout pour notre suite dans la marche et dans la course chrétienne, afin de plaire vraiment au Seigneur, pas seulement pour quelques jours, quelques semaines, mais vraiment à longue haleine, jusqu'à ce qu'on puisse achever cette course en tant que jeunes adultes. Et je crois qu'on sera jeunes adultes jusqu'au bout de notre vie. Donc j'ai mis un plan aussi hein, pour cette étude, comme toujours, comme ça vous n'êtes pas perdus. Et vous pouvez suivre aussi dans ces notes. Donc on va essayer de voir Timothée comme enfant, adolescent et un vrai jeune adulte. Et puis on va voir dans un deuxième temps, comme nous avons lu ces paroles, les passions de la jeunesse à fuir sans résister sur place, tel un fugitif. On va étudier ça un peu. Et puis aussi en troisième temps, on va voir aussi le refuge planifié du Seigneur parmi les fidèles. Jésus, il planifie un refuge pour tous les jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes adultes de tout âge de l'Église. Et on peut voir ça aussi dans cette partie. Donc j'ai intitulé le titre de ce message, donc les passions de la jeunesse, non pas à résister sur place, mais à toujours fuir. Toujours dans la grande série hein, qu'on a commencé depuis donc 2 semaines, sprint final. Parce qu'on est dans le sprint final de l'apôtre Paul, donc on est un peu en train de courir avec lui. Hein. Et puis dans cette exhortation de demeurer fidèle au sein de dernières épreuves. Alors dans Actes 16, 1 à 3, je ne sais pas si vous avez déjà lu ces récits, c'est là où Paul rencontre Timothée. Donc c'est quelque part à Lystre ou Derbe où il voit ce jeune homme. Et une première question, comme ça vous participez aussi. Qu'est-ce qui a pu préparer Timothée à rejoindre ce grand missionnaire, l'apôtre Paul, à votre avis? Est-ce que vous avez une idée? You got the question. What could have prepared Timothy to join Apostle Paul as a missionary. Pour des encouragements, oui, parce qu'il l'a encouragé. Et je crois que la Bible, déjà dans ce passage qu'on vient de lire, on a lu dès son enfance, et puis certainement dans sa phase d'adolescence aussi, on peut supposer, dès ton enfance, tu connais tes saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc il est possible qu'il était vraiment un jeune adulte, voire peut-être fin d'adolescence, hein, dans le premier voyage de Paul, vers ces villes de Lystre ou d'Herbe. Et puis là où il y avait un travail qui était implanté par Paul. Donc Timothée était probablement un tout fraîchement jeune adulte, je crois, ou peut-être fin de l'adolescence, mais en tout cas, il a pu partir à un moment avec lui. Donc nous arrivons, enfin vous arrivez, enfin tous aussi certainement, hein, plus ou moins dans une phase dans la connaissance des Saintes Écritures. Et puis aussi, on a une connaissance de soi-même maintenant. Donc on n'est plus adolescent, on est jeune adulte, ou même un peu plus que les jeunes adultes, et on se connaît maintenant, plus ou moins. Notre cœur d'adolescence, notre cœur en tant que jeune adulte, et c'est surtout idéal parce qu'on se prépare dans cet âge pour servir Dieu. Et c'est pour ça qu'une église qui se concentre parmi les jeunes, dans la jeunesse, c'est vraiment une église qui a toujours un espoir pour la génération, parce que elle va aller plus loin. Elle a une vision longue, haleine. Donc, qu'est-ce que nous lisons sur la vie de Timothée pour la première fois? Probablement, il était dans cette fin de phase, alors, moi je trouve, hein, d'adolescence, ou même jeune adulte, je crois. Donc, c'est un âge potentiel pour approfondir la connaissance de Jésus-Christ. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, dans cette salle, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui n'ont pas cette connaissance de Jésus-Christ, eh bien c'est probablement le moment aussi de considérer la parole de Dieu, de voir c'est quoi l'état de mon cœur, de votre propre cœur, combien le péché envahit le cœur et combien Jésus-Christ est capable de vous sauver si vous lui demandez le pardon de vos péchés. Et c'est la raison suprême pourquoi Jésus-Christ a été sacrifié. Donc je vous encourage dès ce soir, même si vous n'êtes pas en Christ, de donner votre cœur, de demander le pardon de vos péchés et de recevoir la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Et confessez-le de votre bouche. Parlez de cette expérience avec quelqu'un, si c'est possible. Donc la parole d'instruction pour tous les hommes, toutes les femmes adultes est rapportée dans ces passages qu'on a lus, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Donc un modèle parmi les fidèles à Lystre, c'est exactement là où il a commencé, Timothée. Donc déjà dans l'église locale où vous êtes, si vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est là où il faut commencer. Et là, l'apôtre Paul, il le rencontre. Et maintenant, en tant qu'enseignant ou même pasteur dans les églises d'Éphèse, où il a été engagé par Paul, Timothée va continuer à servir Dieu, quelque part dans un autre arène, on va dire, ou dans un autre lieu de combat, champ de combat. Mais ce qu'il a appris dans la jeunesse, dans son enfance, eh bien, c'est exactement ce qui va se servir pour lui, pour plus tard aussi. Donc l'apôtre encourage que ses progrès en tant que étudiants, même nous, de la parole, ou en tant qu'étudiants laïcs, de toute étude qu'on peut en faire, on peut tout mettre au service de Dieu. En tant que lecteur, en tant qu'enseignant de la Bible, que nos progrès soient évidents à tous. C'est ça un peu l'exhortation de Paul. Et il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès te soient évidents pour tous. J'étais en train de discuter, chatter avec un jeune adulte, étudiant comme vous aussi. Et il m'écrivait cette semaine en disant que même pour sa carrière, il aimerait faire une carrière et servir en même temps le Seigneur. Et il me disait, c'est ça un peu son appel du moins aujourd'hui. Il doit avoir votre âge, hein, 23 ans, quelque chose. Et il disait, mais ma priorité que je veux mettre, c'est malgré tout, c'est l'étude de la parole, jusqu'à la fin. Et ça m'a beaucoup touché parce que c'est une résolution finalement. un plan de vie, même si je fais de l'ingénierie, même si je fais ceci, cela, des grandes études importantes, mais par-dessus tout, c'est la parole qui le motive, ce jeune homme. Donc, il y a une étude, en fait, qui a montré qu'il y a trois choses que vous ne pouvez pas enseigner aux gens. Le mode de vie, les mœurs et les attitudes. C'est-à-dire, oui, on peut enseigner. Mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est que même les managers, ils n'apprennent pas toujours comme il le faut. Ils ont du mal, en tout cas. Mais ils ont besoin d'un modèle pour apprendre ces choses. Ce n'est pas dans la classe, dans les cours, autour d'une table qu'on peut apprendre le mode de vie, les mœurs, les attitudes, etc. Et ici, on a le modèle de Timothée dans cinq domaines. L'apôtre Paul, il dit « Sois un modèle pour les fidèles », comme nous avons lu tout à l'heure. Et je trouve que ces cinq domaines sont très importants parce que Paul va les aborder l'un après l'autre pour... parler à son protégé, hein, à son disciple, en quelque sorte, à son fils spirituel. Donc il va parler de son mode de vie, des mœurs, de ses mœurs à Timothée, des attitudes, modèles. On va considérer, j'espère brièvement, au moins trois dans un premier temps, et puis avec le temps qui nous restera certainement aussi les autres. Mais c'est important parce que si on apprend et on intègre ces choses dans notre esprit dès maintenant, notre esprit se forme et on sera un témoin pour le Seigneur à travers ces domaines de la vie. Donc en parole d'abord il dit. Alors le Seigneur Jésus il dit, hein, vous vous rappelez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et au jour du jugement, les hommes vont rendre compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et c'est ça que le Seigneur Jésus il dit par rapport à la question de la parole. Tu seras justifié par ta parole ou par tes paroles tu seras condamné. Et Jacques dit aussi, si quelqu'un bronche en parole, c'est un homme parfait. Ne bronche point en parole, plutôt. C'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, veillez sur la parole. Tout ce qu'on peut, on peut dire. Et puis, dans Éphésiens, l'apôtre, il dit aussi qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Cela, je trouve, touche quand même à la vie privée. Pourquoi je dis ça? Parce que la bouche prononce souvent ce qui est dans le cœur. C'est le contenu du cœur qui ressort à travers la bouche. Quand vous entendez les gens, quand vous marchez dans la rue, vous entendez dire des choses. Bon, c'est forcément pas agréable parfois. Mais cela montre quoi? Le contenu du cœur. Et c'est ce que Jésus dit, hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si on est rempli de bonnes paroles d'édification, forcément ça communiquera une grâce de Dieu. Sinon c'est la mauvaise parole qui prendra plutôt le dessus, sous forme de critique ou d'une manière agressive. Et tout cela risque de refléter la mauvaise attitude du cœur. Et puis je sais qu'il y a des gens qui se préparent pour le mariage aussi. Donc comment on va s'entraîner? Comment vous allez vous entraîner dans la parole avec votre futur conjoint ou ceux qui sont déjà mariés dans la salle, il y en a. Donc je pense que ça c'est très important, la parole, et c'est ce que l'apôtre Paul il dit, soit un modèle dans ce domaine. Combien de problèmes dans l'église on aurait pu éviter en maîtrisant ces paroles. Une parole très vite dit, lâchée. Puis quand je dis parole, bien sûr on peut parler aussi de nos communications virtuel aussi, hein. Parce qu'on en parle aussi, ouais. Moi le premier, hein. On est tous coupables, hein, parfois, même souvent. Donc c'est la raison pourquoi il faut se poser la question, qu'en est-il de mon cœur? De quoi le cœur abonde? Donc est-ce que nous prions pour communiquer une grâce? Dire, Seigneur, donne-moi de pouvoir communiquer aujourd'hui une grâce venant de toi. Et puis parmi les fidèles surtout. C'est ce qu'il dit, hein. Tout commence parmi les fidèles. On va voir ça tout à l'heure dans le planning ou la planification de Jésus-Christ parmi les fidèles. Oui. Avec un frère, une sœur de l'Église, donc dans la vie pratique, dans la vie familiale, dans la vie de l'Église, dans la vie en tant que jeune, dans vos réunions, dans les sorties, comme on a discuté tout à l'heure, votre sortie d'hiver. Et puis tout cela reflète l'état privé du cœur, finalement, avec un collègue, pour ceux qui travaillent. Et surtout, la question de l'écoute aussi, qui rejoint la parole. Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice parfois, en conversation. Moi, comme bien des fois, j'ai regretté vivement, parce qu'après une discussion, une conversation, dans un groupe ou avec des amis ou avec des frères, j'ai dit, mais combien de fois j'ai coupé la parole ? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pensé, mais ça fait partie de la parole, de notre modèle à donner en tant qu'enfant de Dieu. Donc l'écoute de l'autrui, c'est lié au domaine de la parole. Donc sans développer un excellent modèle pour écouter l'interlocuteur, c'est impossible d'être modèle en parole. Ça va ensemble les deux choses. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole. C'est ce que je retiens dans ce passage. Donc en relisant, en refaisant cette étude, moi j'étais le premier à être repris hein, dans tout ce qu'on est en train de faire, parce que on branche tous. Et Jacques il dit, si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme qui commence à un tout petit peu maîtriser son corps même, il dit. Presque comme un cheval qui est maîtrisé, quoi. Et puis ça galope pas dans tous les sens. En conduite maintenant aussi, il dit, le chrétien qui avance dans la maturité est l'excellent ministre de l'Église, le jeune homme, la jeune femme adulte mène une vie vertueuse en reflétant un comportement impeccable, digne d'un enfant de Dieu, en manifestant la douceur du Saint-Esprit, en laissant voir ses convictions bibliques, en les communiquant dans son entourage, à l'école, dans les universités, dans tous les aspects de sa conduite. Là, c'est un domaine qui touche plutôt la vie publique, le domaine de la conduite. Donc, sois un modèle en conduite. On peut parler de l'amour et de la foi plus tard, parce que les versets se rejoignent. Hein. Donc, 1 Timothée 4,15 et 2 Timothée 2,22. Il parle aussi de la pureté, dans le terme original « agneia ». Donc, dans tout le Nouveau Testament, je crois que ici est chapitre 5, 2 où ça apparaît ce terme. C'est ce que certains commentateurs disent. Donc il instruit Timothée à exhorter les sœurs en toute pureté. Ça c'est dans 5, 2 qu'il dit. Donc ici c'est une question en fait, je crois qu'il touche la propreté morale, si vous voulez. C'est quelque chose qui touche encore plus la vie intime, plus que la vie privée, mais la vie intime même de l'homme et de la femme. C'est en rapport avec la pureté sexuelle même, dans toutes les intentions, dans les gestes, dans les regards, dans les attitudes et aussi dans les habitudes. Alors, dans l'exemple du monde, bien sûr, on peut faire rien qu'avec cet aspect un sujet d'une heure. Hein. On peut discuter, je vous laisse réfléchir éventuellement pour cette année scolaire, de prendre cette question d'agnéa, de pureté, et puis de faire peut-être des sessions d'études, hein. Parce que le monde propose toutes sortes d'impuretés, tout le contraire. Donc aussi bien dans les documents, les filmographies, malsains, obscènes, via les outils virtuels. C'est un peu comme Jacques il dit, hein, avec la même bouche, on peut bénir le Seigneur, mais aussi on peut le maudire. Donc avec les mêmes outils technologiques, on peut bénir le Seigneur, louer le Seigneur, glorifier le nom du Seigneur, mais aussi on peut déshonorer le Seigneur. Donc toutes sortes de documents sont disponibles, toutes sortes de filmographies sont disponibles. Mais Paul il dit, fuis les passions de la jeunesse, fuyons-les, il dit. On reviendra un peu sur ça tout à l'heure dans la deuxième partie. Donc planifiez l'agenda afin de fuir délibérément et de vivre selon cette pureté et être modèle parmi les fidèles. Donc c'est quoi cette fuite et ce désengagement de toute voie tortueuse ? Donc je développerai un peu plus dans la deuxième partie les passions de la jeunesse qu'on doit fuir sans résister. Hein. Donc l'œuvre de Dieu produit la pureté du cœur et du corps. Et nous sommes tous impliqués ici. Là, c'est-à-dire, c'est plus une question de jeune adulte, parce que là, il est en train de parler à un Timothée probablement qui a peut-être entre... l'âge de 30 ans, 35 ans ou peut-être 40 ans même. Enfin bref, il commence à être un homme plus que jeune adulte, hein, si on peut dire. Je ne sais pas quel est votre cursus ici pour les jeunes adultes. Chez nous, dans nos églises à Saint-Denis, Grand-Rossi, c'est 18, 30, quelque chose comme ça. Mais ici, je crois que Timothée, il doit avoir nettement peut-être plus que 30 ans. Donc, il s'applique vraiment à tous. Ouais. Et puis, je vois aussi une autre application dans cette agnéa. Et puis, surtout, si enfin, un jeune homme et des jeunes hommes, jeunes femmes ici, certains, je commence à faire connaissance. Mais si il y en a qui fréquentent une jeune femme en Christ, déjà en Christ, dans le Seigneur, en vue du mariage, qui est une très belle chose avec une relation saine, pure. Et c'est un peu le leitmotiv que vous pouvez avoir aussi. Parce que ça, c'est un domaine qui touche aussi la vie intime, jusqu'à ce que vous soyez unis dans la relation de mariage. Bien sûr, je parle du mariage de deux personnes de sexe opposé. Hein. Je préfère le préciser maintenant parce que on vit dans une période où toutes sortes de choses, tout et n'importe quoi se légalise. Et j'ai appris à 2 semaines, il me semble qu'ils ont promulgué la loi aussi en Inde, les mariages homosexuels. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations. Donc, ils ont juste quoi, 10, 15 ans de retard par rapport à Amsterdam. Hein. Et j'en suis convaincu que l'Afrique va suivre dans certains pays, peut-être qui sont encore...
Mais il y a déjà Sud-Afrique.
Promulgué. Et encore, par la grâce de Dieu, je trouve qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont préservés, mais je pense que ça va venir. Hein. Je suis sûr quasiment, parce que on est dans le monde.
C'est lié avec le prêtre aussi. Hein.
C'est ça. Parce que le problème commence parmi les religieux et dans la religion même.
Et pas même les prêtres de l'argent.
La pression économique.
La pression économique.
Des grandes puissances.
La pression économique qui jaillit sur tous les niveaux. Quoi. Donc, je pense que cette question du mariage, enfin, je laisse après le frère Nilsson qui peut traiter peut-être encore une étude là-dessus dans l'année scolaire, hein, je te donne beaucoup de travail. Mais c'est des questions qu'il faut traiter, qu'il faut suivre. Il y a des bouquins qui existent, d'ailleurs, j'ai vu dans la bibliothèque de l'Institut, un bouquin qui parle de l'homosexualité. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit entre parenthèses en disant ici que ça serait bien de le dire. Mais il ne faut pas se leurrer, hein. Ça va arriver dans tous les pays, même certains d'entre vous êtes d'origine africaine, qui sont préservés, mais je crois que ça va venir. Hein. C'est une question de temps maintenant. Donc il est en train de dire ici dans tout cet aspect de cette pureté que le Seigneur fasse pénétrer toute la doctrine et aussi son esprit. Son attitude, l'attitude de Jésus-Christ lui-même finalement, pour marcher en vie de modèle pour chaque jeune homme, chaque jeune adulte. En agissant ainsi, tu te sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Je vois que le temps avance très vite, plus vite que ce que je prévois. Donc on va très rapidement aller dans les autres exhortations. Je continue avec les passions de la jeunesse. Donc ici, c'est intéressant de lire dans ce verset, hein, de 2 Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse. Et quelque part, il est en train de rejoindre ce que le Seigneur Jésus dit dans sa prière, ne nous induis pas dans les tentations. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et c'est intéressant, j'ai dû mettre quelque part, ici dans les notes, il est question de fuir dans le sens fugitif, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est comme s'il est en train de s'évader d'un prison. C'est comme si vous êtes en pleine poursuite et puis vous devez surtout pas résister et attendre, rester, voir, savoir, mais comme un fugitif. Le verbe fuego, dérivé de fugitif, c'est pas une fuite facultative, hein. C'est-à-dire oui, j'ai l'option. Non, il dit une fuite délibérée, incessante. C'est un peu comme l'anecdote de Joseph. Vous vous rappelez peut-être, il fuit alors que la femme le tente. Donc Timothée ne doit pas céder à ses passions afin de ne pas être discrédité dans sa position. Notamment, il doit redresser toute forme de immoralité, de fausse doctrine, des faux frères qui sévissent dans les églises, comme on a dit. Hein. Dans certains pays, il y a des églises où il y a toutes sortes de vices, sans vouloir les nommer, bien sûr. Donc, dans les églises d'Éphèse aussi, il y a eu des faux docteurs qui arrivaient. Donc, Timothée doit se préserver en tout point. Et je vois qu'ici, cette passion n'est pas forcément, comme on a vu tout à l'heure par rapport à la pureté, liée aux passions sexuelles. C'est aussi toutes sortes de passions liées à l'amour de l'argent, l'amour effréné pour l'argent, des richesses futiles, patient pour les pouvoirs, patient pour les ambitions. Et tout ça, c'est des choses qui guettent les jeunes adultes. Hein. Dans cet âge, nous avons, et même les moins jeunes adultes, si on peut dire comme ça, il y a toutes sortes d'ambitions qui peuvent prendre le dessus parfois. Donc c'est toutes ces passions que l'apôtre Paul il dit de fuir. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Ça, c'est ce qu'il dira dans la première lettre du chapitre 6, 11. Et c'est dans le contexte justement où il est question des richesses futiles et tout ce qui est en rapport avec ces richesses. Donc dans tous ces contextes de ces deux versets, on peut voir des passions de convoitise, de célébrité aussi, d'orgueil de la vie, des passions démesurées, des esprits de dispute aussi. Je crois que ça aussi c'est quelque chose que nous devons travailler. Je sectionne parfois le cœur quand je vois mon propre cœur. Hein. Des sections où il y a une petite chambre où il y a des esprits de dispute et une section de mon cœur où il y a un esprit de querelle, il y a un peu d'arrogance, les passions de la jalousie et puis des semblables hein, passions. Et je pense que c'est toutes ces passions, pas seulement les passions sexuelles, mais toutes ces autres passions de la jeunesse qu'il doit fuir. Et c'est bien sûr une fuite presque perpétuelle parfois. C'est pour ça que parfois on voit Paul en train de courir dans le sens qu'il fuit ces choses dans ce sprint final. Alors, la dernière partie, puisque le temps avance très vite, donc on va voir le refuge planifié du Seigneur Jésus-Christ parmi les fidèles. Comment Timothée peut positivement gérer cette fuite incessante, délibérée et planifiée? Et c'est la deuxième partie du verset qui nous instruit ça. Il dit « Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. » Donc avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Donc il y a quatre caractéristiques de ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. C'est pour ça que j'ai écrit « il faut un refuge » comme les villes de refuge, hein, les six villes de refuge parmi les Lévites hein, qu'on lit dans l'Ancien Testament. Si un chrétien aujourd'hui, dans l'Église, il peut dire, un jeune homme, une jeune femme peut dire « il y a un lieu de refuge », je crois que c'est ce que le Seigneur a prévu, c'est parmi les fidèles. C'est le refuge planifié par Dieu lui-même, comme des villes construites par Josué hein, à l'époque. La justice, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu? Donc, à toute époque de la vie, un juste est justifié par la foi en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous exhortons, si vous n'avez pas encore la foi en Jésus-Christ, de venir à Christ. Croyez en Jésus-Christ, dans sa parole, pour être sauvé, et obéissez à sa parole, et ayez confiance en la parole de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on se dirige dans la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. La foi aussi. La foi ici, elle évoque pas forcément la foi du salut. Bien sûr, il y a la foi du salut pour ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ. Mais ici, je crois que l'apôtre, il insiste sur la fidélité quelque part, la loyauté. Et dans certaines langues, justement dans la langue indienne tamoule, ce même mot est utilisé pour celui qui est fidèle, loyal, comme pour celui qui a la foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Donc c'est des mots qui ressemblent, enfin qui, dans certaines langues, du moins en grec aussi, il y a ces mots qui arrivent. Mais ici, je crois qu'en français, on peut dire, on peut parler de cette fidélité, de cette loyauté vis-à-vis de votre employeur, vis-à-vis de nos managers, nous en avons tous dans nos lieux de travail. Cette loyauté qui se distingue par rapport à la loyauté ou la fidélité des inconvertis. Parce qu'eux ici, ils savent être loyaux. Mais le chrétien, il a l'Esprit Saint. Donc loyal selon l'Esprit de Dieu. Donc ceux qui exercent peut-être une forte influence doivent travailler davantage si on a une responsabilité de diriger l'Église. Donc ce domaine du ministre de Dieu, du jeune homme, de la jeune femme adulte, digne de confiance, manifeste vraiment un engagement inébranlable et un dévouement exemplaire. Sois un modèle pour des fidèles en foi. Recherche la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a aussi l'amour. Là, c'est sûr que vous avez compris, hein, ce n'est pas un amour, une émotion mondaine. Mais c'est un amour que le monde confond. Hein. Mais ici, je crois que c'est l'amour biblique de Dieu qui nous a tant aimés et dont le Fils Jésus-Christ nous a tant aimés et s'est livré lui-même pour nous, pour chacun. C'est encore là un domaine qui caractérise non seulement le responsable ecclésiastique, hein, bien sûr, c'est toute l'Église finalement ici. Dans la première, deuxième lettre de Timothée, il parle à toute l'Église, pas seulement au responsable ecclésiastique, pas seulement celui qui conduit l'Église. Tous, nous sommes engagés ensemble à servir l'Église. Il se donne avec une telle intensité d'amour, celui qui s'engage pour le Seigneur, selon le modèle même de Jésus-Christ. Et Paul, il dira, imitez-moi comme j'imite Christ dans tous ces domaines. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dira Jésus. Jean chapitre 15, verset 13. Donc, c'est un domaine qui touche notre motivation dans le ministère aussi. On a besoin d'être, c'est comme le fuel dans votre véhicule. Si le fuel manque, la voiture va avoir du mal à démarrer, à repartir. Donc, l'amour est vraiment le fuel pour chaque chrétien, chaque homme, chaque femme de l'Église. Servir l'Église par l'amour pour la vérité, par amour pour Dieu, pour sa vérité. Servir sa famille par amour agapé. Sois un modèle pour les fidèles en amour et recherche l'amour. Et il finit aussi avec la paix. Bien sûr, la paix si possible. Paul il dira, cherche la paix avec tous si possible, hein, parce que cela ne dépend parfois pas forcément seulement de vous. Si votre collègue ou votre co-étudiant cherche vraiment et que c'est difficile d'établir la paix, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tant que ça dépend de vous, cherchez la paix. Donc priez pour quelqu'un qui ne veut pas la paix, priez pour eux. Et c'est comme ça qu'on peut établir ce pont de la paix. Donc ici, je crois que c'est surtout pour les fidèles entre eux aussi. Rechercher la paix est un impératif parce que cela nous fait fuir en fuyant les passions de la jeunesse liées aux querelles, aux disputes et des esprits de division même. Et même parfois dans l'Église, on cherche la paix. Et c'est ça que l'apôtre Paul il est en train d'exhorter Timothée. Le temps avance, donc on va très rapidement conclure tout ça. Donc le refuge est vraiment planifié par le Seigneur dans ses paroles, parmi ceux qui l'invoquent. Ça, on peut insister aussi un peu, oui. Parmi ceux qui invoquent d'un cœur pur. Donc c'est facile de venir parmi les fidèles lorsque les temps vont très mal. Ça, c'est une chose. Il y en a qui sont des visiteurs. Ils arrivent, ils arrivent. On ne les voit plus pendant un moment. Et puis pendant les circonstances de la vie, en prenant des circonstances comme excuse, ils ne reviennent plus. Il y a tout ça. Mais je pense qu'ici, Paul établit vraiment un engagement, une alliance entre chaque jeune homme, chaque jeune femme, chaque chrétien avec son Église. Et au sein de votre ville, ici, il y a une Église. Donc c'est ça qui est merveilleux dans tout ce que le Seigneur fait dans ce pays, en France, où nous le servons, c'est qu'il a établi ses œuvres par la foi. Donc la Bible dit clairement, c'est la coutume de certains d'abandonner l'assemblée. Hébreux chapitre 10, 25. D'ailleurs, dans notre étude prochaine, cette semaine qui vient, on va parler de Hébreux chapitre 10. Donc tout ce travail avec ceux dont le cœur est pur et qui sont engagés, qui sont purifiés avec le Seigneur, par le Seigneur, concerne donc tous les membres de l'Église. C'est plus qu'un simple visiteur de l'Église hein, que nous sommes. Et tous les jeunes hommes, toutes les jeunes femmes adultes de cette Église travaillent corps et âme. C'est ça qu'on dit, hein, l'expression travail, corps et âme. Chacun responsable à son niveau, à son degré, avec votre pasteur. Je crois que sans être utopique, vous pouvez faire bouger l'île. Je prie et nous rêvons hein, pour certains d'entre nous depuis des années ou des décennies, et je sais des pasteurs depuis même 3, 4, 5 décennies, pour qu'il y ait un réveil en France, pour qu'il y ait des conversions en France, et je pense que c'est avec la jeunesse que le Seigneur est capable de travailler. Déjà, si notre cœur s'engage avec le Seigneur, donc plus qu'un simple visiteur, bien sûr. L'apôtre nous exhorte dans cet authentique et sincère service parmi les fidèles, avec ceux qui invoquent le Seigneur, en se consacrant avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc en conclusion, je ne vais pas trop tarder, invoquons le Seigneur d'un cœur pur ensemble en tant que fidèles de l'Église. Ainsi nous serons un vase d'honneur. Nous pouvons étudier ça demain sur cette question de vase d'honneur, cette illustration du vrai enseignant, du vrai responsable, du vrai jeune homme dont le cœur est pur, sincère devant Dieu, selon Dieu. Et puis nous verrons aussi demain des vases de déshonneur en tant que faux enseignants. Tout ça, on va réfléchir dans la journée demain et surtout demain après-midi. Mais retenons en fait sur cette partie de la jeunesse, à fuir les passions de la jeunesse, à rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc on a vu Timothée en tant que jeune adulte, il est tout à fait décrit ici dans cette lettre, avec les passions de la jeunesse qu'il doit fuir comme un fugitif, quelqu'un qui s'évade constamment et qui se réfugie, planifié, dans ce refuge planifié du Seigneur parmi les fidèles. Je vais rapidement terminer avec une prière. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes, pour cette occasion de pouvoir étudier cette parole. Je prie que tu nous aides chaque jour, et tu connais toute notre vie, et nous savons que nous pouvons compter sur toi, parce que tu as vaincu, et tu engages tout jeune homme, toute jeune femme, plus jeune ou moins jeune, chacun de nous ici, à nous engager avec toi, et que tu nous donnes cette grâce. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Vous avez une session question ?
J'ai plein de questions, mais on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps, on verra plus tard. Merci en tout cas de votre attention.